Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Clément Vuillet. La gourmandise de ce matin a été débusquée en écoutant le philosophe Jean-Pierre Dupuis parler de la question du mal. C'est un extrait de Rousseau, juge de Jean-Jacques, ouvrage paru en 1782 après la mort de Rousseau. Il parle dans ce passage des passions primitives qui tendent normalement à notre bonheur. Quand, détournées de leur objet par des obstacles, elles s'occupent plus de l'obstacle pour l'écarter que de l'objet pour l'atteindre, alors elles changent de nature et deviennent irascibles et haineuses. Et voilà comment l'amour de soi, qui est un sentiment bon et absolu, devient amour propre, c'est-à-dire un sentiment relatif par lequel on se compare, qui demande des préférences, dont la jouissance est purement négative et qui ne cherche plus à se satisfaire par notre propre bien, mais seulement par le mal d'autrui. Comédienne affranchie à la truculence irrésistible, notre apothicaire de l'âme promène son aura bebop dans près d'une centaine de films et de séries télévisées. Ses yeux nuits imprègnent les pellicules de Bertrand Blier, Tony Marshall, Cédric Clapiche, Chantal Akerman ou Bertrand Tavernier et transmettent les émois de Strindberg, Ionesco ou Thomas Bernard. Quand elle ne foule pas les planches ou les studios, elle s'encanaille avec son meilleur compagnon, le jazz, qu'elle découvre à 12 ans. À 20 ans, elle danse au théâtre Donou et à 21, swing avec les notes et les musiciens aux États-Unis. Elle revient à Paris parfaitement fauchée, fait la plonge au Tabou, cave musicale de Saint-Germain-des-Prés et prend des cours de théâtre. Partie communiste en 68, premier tournage en 71, puis repérée par le grand Blier. Elle s'engage dans maints projets sans jamais être emprisonnée par rien. À côté du jeu, elle réalise un court-métrage, monte un spectacle, fait des remplacements au bar-restaurant du comité d'entreprise de l'Humanité ou inspire les scénaristes de la série 10%. Qui lui écrivent un rôle à sa mesure. La phrase précédente est anarchique en termes de chronologie, mais soyez clément, je parle en free jazz. La vie de notre apothicaire est marquée par plusieurs événements tragiques de la grande et de la petite histoire. Jamais de plainte de sa part, de simples constats. Cette existence trop riche pour être résumée et détaillée dans un livre écrit d'abord pour sa fille et qu'elle ne pensait pas publier. La folle vie de Lily, parue cette année chez Robert Laffont. Bonjour Liliane Rovert.
Bonjour.
Liliane Rovert, vous vous définissez comme une pessimiste gay. Première question, quel est votre rapport à la mélancolie ?
La mélancolie, c'est un joli mot. Mais c'est un joli mot, mais qui peut être prégnant. Ça a l'air plus doux que tristesse. La mélancolie, c'est joli, il ne faut pas que ça s'installe.
Elle ne s'installe pas chez vous ?
Ça ne s'installe pas. Ça peut arriver, ça vient et ça part.
Vous avez eu une petite tendance, un petit élan vers le spleen quand vous étiez petite, vous le racontez dans La folle vie de Lily, vous vous regardiez dans le miroir en chantant Kenavo, la chanson bretonne Kenavo, en pleurant.
Je chantais la chanson Kenavo parce qu'elle était triste, c'est une chanson qui dit au revoir à Dieu ou un truc comme ça, un marin qui s'en va. Et je chantais ça pour me faire pleurer.
C'est passé ça ?
Oui, c'est passé, mais bon, c'était déjà quand même la méthode, comment ça s'appelle, the method américaine, sans le savoir. Je faisais appel à mes émotions.
Liliane Rovert, quand on vous lit, il y a une chose qui frappe, c'est que vous semblez ne pas vous inquiéter du lendemain.
Pas trop.
Pas trop.
C'est vrai. Parce que je suis volontiers inquiète, mais ça tient pas, quoi. Je veux dire, ça j'ai un heureux caractère. J'ai un heureux caractère parce que je pars au quart de tour. Je peux flipper au quart de tour, mais je reviens vite. Je reviens vite sur mes pieds, sur mes bases.
Vous avez une grande vitalité. Il y a un leitmotiv qui est la vie continue dans votre livre.
Oui, mais elle continue. C'est une évidence. Hein. J'ai pas découvert le. je sais pas, découvert un secret. La vie continue, elle. Nous, on part, mais la vie, elle continue, sans nous.
Non, mais avec vous, là, je parle de la vie avec vous, plutôt, Liliane Rovert. On sent qu'à chaque fois, quand il y a un événement, vous pourriez nourrir le mauvais loup, vous pourriez nourrir la tristesse, je veux dire, avec tous les petits drames qui ont ponctué votre existence. Mais à chaque fois, vous rebondissez et vous vous dites, la vie continue, vous allez de l'avant, c'est une décision.
Non, c'est pas une décision, c'est ma nature, j'ai de la chance. C'est pas tant du courage, c'est mon tempérament. Je vous dis, je pars au quart de tour, et puis je reviens vite. Je reste pas longtemps égarée dans les... voilà.
Alors on va évoquer les choses qui vous réjouissent. Dans un instant, vous allez convoquer Vittorio Gassman, du jazz évidemment, de l'herbe, Jacques Brel, Michel Serres, Socrate, Spinoza, juste après Cours camarade d'Alex Baupin.
Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Camarade, le vieux monde sans la poussière, dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de Liliane Rovert.
J'ai appris qu'un pauvre et innocent vieillard expiait une faute que j'ai commise. Poussé par le remords, je viens me livrer à la justice. Oui, monsieur le juge, je suis cet ignoble voyou qui a forcé la portière de la voiture Fiat et qui a fui lâchement. Je jure, cet homme est innocent.
Achetez-toi.
Oui, c'est toi.
Infâme petit voyou, c'est par ta faute que j'ai connu la honte et le déshonneur. Monsieur le juge, songez qu'ils m'ont donné 13 mois. 13 mois de prison à moi, un honnête citoyen, un père de famille, un ancien combattant. Je te crache à la face, Judas.
Insulte-moi, je l'ai mérité. Mais accorde-moi ton pardon.
Non.
Oh, sois généreux, je sors de l'église, j'ai prié la Madone. Aide-moi à reconstruire une existence honnête.
C'est bon, va. Puisque tu te repens, je te pardonne.
Merci.
Sans rancune.
Merci. Merci.
Vous avez terminé?
Oui, oui, Excellence.
Bouclez-les tous les deux.
1958, Le Pigeon de Mario Monicelli, un des premiers films du genre de la comédie dite à l'italienne. Pardon pour l'extrait en version française, mais cela aurait été trop long à traduire. Bon, c'est une satire sociale déjantée qui met en scène le prolétariat dans l'Italie de l'après-guerre. Liliane Rovert, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
Le pigeon, c'est un voyou, un vieux voyou, qui ne pouvant pas être libéré, délègue un bon coup à quelqu'un. Ce quelqu'un le lui pique avec ses copains, et c'est une bande de petits pieds nickelés qui sont pas du tout faits pour ça. Et c'est un film absolument génial. J'ai dû le voir, je sais pas, je n'ai pas compté, peut-être 20-25 fois, j'arrive toujours autant à chaque fois, et je le recommande.
Il y a un humour sans méchanceté, il y a une légèreté délicieuse dans ce film, rien n'est grave.
Non, mais rien n'est grave avec des choses qui sont, elles, sérieuses. Parce que la comédie, moi j'aime la comédie, mais j'aime la comédie noire. La comédie quand elle a du sens. Si la comédie est trop légère, ça m'intéresse un peu moins. Mais quand la comédie a du sens, alors là, ça devient formidable.
Liliane Rovert, il y a une chose qui frappe dans ce film, vous qui aimez le jazz, c'est qu'il y a un rythme saccadé, soutenu, presque comme une partition de jazz.
C'est une question de rythme, effectivement. C'est un débit, une question de rythme. Chacun a son débit et chacun a, enfin, un débit plus ou moins, avec plus ou moins de swing, hein. Il faut avoir, je veux dire, chacun a une voix, chacun a un débit et chacun est reconnaissable à sa voix et à son débit.
Il y a Vittorio Gassman dans ce film extraordinaire. Et comme vous le disiez, c'est drôle et léger, mais sur des sujets graves. Et ça met en scène la pauvreté. Et je pense à cette scène où ils disent, avant de faire leur coup, synchronisation des montres et personne n'a de montre.
Oui, mais c'est, oui, c'est ça. C'est parce que ce sont des personnages de la vie réelle, d'une Italie d'après-guerre qui est pauvre, qui est très pauvre. Et ce sont des personnages qui sont tous obligés de se débrouiller avec la vie. Et c'est ça qui donne, je crois, le sel.
En studio, à l'écoute de Parker's Mood de Charlie Parker, un de vos morceaux favoris, Liliane Rovert, pour illustrer l'activité qui vous met en joie, qui est écouter du jazz en fumant un petit joint.
Oui. Écoutez, on n'en fume pas des joints comme on fume des cigarettes, mais un joint, bon, c'est un psychotrope quand même. Donc ça ne peut pas vous réinventer, ça ne peut pas vous donner les idées ou les qualités que vous n'avez pas, mais ça dispose, ça ouvre un petit peu.
On ne fait l'apologie de rien. J'ai entendu dire que quand on n'était pas Liliane Rovert, c'était mauvais pour la santé, les joints, je le dis aux auditeurs. Mais vous, Liliane Rovert, vous pouvez tout vous permettre dans cette émission. Là, quand on a passé ce morceau, vous m'avez dit hors antenne, j'ai un coup au cœur.
Ah oui, à chaque fois. À chaque fois, il a un son, il me met une adrénaline. Charlie Parker me fait un effet énorme.
Le jazz,
le blues qu'on entend là, c'est une merveille.
Le jazz, ça a été un peu votre école. C'est là que vous avez fait vos humanités, Liliane Rovert. Vous avez tout appris avec le jazz. Vous avez eu une vie avec des jazzman. Vous avez écouté du jazz tout le temps. C'est votre première source de joie.
Écoutez, je ne suis pas aussi riche que vous le pensez. J'ai fait les choses, elles m'arrivent, je les fais, c'est après que je sais ce qui s'est passé.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est après que je peux dire ce que ça m'a fait, ce que ça a produit sur moi. Sur le moment, non. Sur le moment, je vis les choses, je les pense pas intellectuellement en les vivant, quoi.
Vous avez été l'épouse du bassiste B.B. Rovert, vous avez une histoire d'amour avec Chet Baker, et vous dites que les jazzmen vous ont initié à tout, au bebop et à l'émancipation.
À l'émancipation ?
Ouais. Pas vraiment, là, je vous vois dubitative.
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'ai été... je ne sais pas, j'ai été en prise directe. Amoureuse, en quelque sorte, de cette musique et de ceux qui la faisaient.
quand vous avez dit à votre mère un jour plus tard, je veux faire du bebop. Pas la musique, mais l'existence.
Non, mais c'est venu ça, c'est venu. Comme, écoutez, je ne sais pas comment c'est venu. On m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je voyais bien, mes parents voyaient bien que je circulais sans rien faire de... Ils ne savaient pas trop ce que je faisais d'ailleurs. Et je leur, bon. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bah, du bebop. C'est venu sans réfléchir. Je ne voulais pas dire par là que j'allais jouer du bebop comme Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Je n'avais pas cette ambition. Ce que je voulais dire, c'était que j'aimais cette musique, cette vie, et les gens qui faisaient cette musique. C'est quelque part où je me sentais chez moi. Je me suis jamais senti autant chez moi que qu'avec la musique.
Vous en écoutez souvent?
Ah, beaucoup. Ah ben, vous savez, si on aime ça, on s'arrête pas. Je veux dire, c'est pas un truc dont on se guérit. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, je lui ai demandé pas pour le questionner, mais parce qu'il avait chez lui des disques intéressants. Je lui ai demandé innocemment, j'ai dit, vous aimez Charlie Parker? Il m'a dit, oui, dans le temps, mais ça m'a passé. Ben, c'est pas possible. Ça passe pas. Si vous aimez Charlie Parker. Il a jamais aimé Charlie Parker, ce type, parce que s'il l'aimait, ça lui aurait jamais passé, hein.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Le déserteur que Boris Vian écrit en 1954 et qu'il confie d'abord à Mouloudji pour la chanter ensuite, c'est son interprétation à lui.
Ça fait lui.
Oui, qui est interdite de diffusion à la radio. Liliane Rovert, il y a
qui est interdite de diffusion à la radio?
Oui, à l'époque, oui.
Eh ben moi, je l'ai écoutée pas plus tard qu'hier en projetant de la faire écouter à mes petits-enfants.
Ah oui?
Ben oui.
Mais c'est un bon projet.
Ben oui.
Alors, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous racontiez votre rencontre avec Boris Vian. Et vous avez une anecdote assez rigolote où vous êtes échappé d'une sorte de...
Oui. Bon, Boris Vian, il fréquentait Saint-Germain. Donc, je l'ai rencontré comme ça. Je l'ai rencontré au Tabou, d'abord, je crois. Donc, il était à l'initiative, je crois, d'ailleurs, le Tabou. C'était Boris Vian qui en avait fait ce que c'était. C'est Julien Gréco qui avait trouvé la cave, je crois. J'ai lu ça quelque part. Et donc Boris Vian était quelqu'un de sensible, d'intelligent, de doux, et il n'était pas fabriqué, il était naturel. Il était très gentil. Il avait beaucoup de talent, on le sait, mais il était très gentil, ça on ne le sait pas forcément. Donc j'ai eu le plaisir une fois de l'initier, de le faire écouter un trompettiste qu'il ne connaissait pas, Kenny Dorham. Il a joué de la trompette. Donc il était très intéressé. Et puis il m'a sauvé d'une situation ambiguë où j'étais avec des amis, j'étais très 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 jeune, et j'étais avec des amis qui avaient des projets érotiques avec moi. Ils n'étaient pas malfaisants, ils n'étaient pas menaçants. Ils étaient tout sauf menaçants ou malfaisants. Mais voilà. Et quand je me suis aperçue qu'il était question de ça et que c'était de cette sauce-là que j'allais être mangée, il y avait Boris qui était là. J'ai dit, Boris, sauve-moi, sauve-moi. Donc, ramène-moi à la maison. Donc j'ai dit que j'avais une version latine à faire. Et Boris m'a ramené à la maison très gentiment.
Très bonne excuse, une version latine, Liliane Rovert. Boris Vian a aussi traduit des séries noires, et vous aussi.
Oui, moi j'en ai traduit une, c'était Alimentaire. J'avais vu que Gallimard cherchait des traducteurs pour la série noire, comme je parlais bien anglais. Je me suis dit, c'est bon, j'ai été passer un genre d'examen, on m'a engagé, et j'ai traduit un bouquin qui avait un peu les fondamentaux de la série noire, mais enfin qui était pas très, très talentueux, qui s'aidait pas mal à la facilité. Enfin, j'ai fait ça, ça m'a rapporté un petit peu d'argent. Et ça a été, je ne savais pas que je ferais des traductions aussi par la suite.
Tout à l'heure, vous évoquiez votre amour du roman noir. Je crois que vous écrivez depuis plusieurs années un scénario assez noir.
Oui, j'ai un scénario de long métrage qui est pas seulement assez noir, il est très, très, très noir. Il est noir, très. Voilà. Donc c'est un projet de film noir sous forme de polar, qui est inspiré très, très librement d'Édipe Roy.
Waouh.
Carrément.
Carrément.
Oui.
On l'attend alors?
Ben, on l'attend, il ne se monte pas. Il ne se monte pas parce que même s'il a des succès d'estime, il est financièrement quasi immontable parce qu'il est très, 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 très noir, ce qui n'est pas dans les usages en ce moment du marché. Et il est aussi très cher parce qu'il est d'époque. Donc, comme il ne se monte pas, je suis en train de faire une tentative pour le transférer en bouquin. En série noire, c'est-à-dire en polar.
En
polar, mais avec des feuilles, avec de l'écriture, enfin une littéraire.
Liliane Rovert, vous avez fait un autre choix musical, c'est un titre de 1968, c'est Vesoul de Jacques Brel, dont l'accordéon de Marcel Azzola vous met en joie. On va l'écouter, mais un petit mot
Vesoul
avant.
Vesoul, ah oui, ça me met en joie.
Pourquoi?
Ah ben parce que la chanson est formidable, parce que de Brel est formidable dedans, et puis parce que Marcel Azzola, il est incroyable, quoi.
Vous appréciez Brel comme acteur?
Moins que comme chanteur. Je l'aime de toute façon, parce que j'ai une tendresse pour lui, une admiration, une tendresse pour lui. Je suis moins séduite par l'acteur, mais vous savez, j'ai eu de la chance, j'avais plein de copains musiciens, moi. Donc, il était accompagné dans son orchestre, quand il était à l'Olympia, il était accompagné par des musiciens, dont je connaissais pas mal d'entre eux. Donc, il me faisait rentrer en coulisses. Et moi, 10 soirs de suite, à quelques mètres de Brel, accroché au rideau de scène, j'écoutais Brel chanter 10 soirs de suite, et 10 soirs de suite, il m'a... Il avait un engagement incroyable.
On écoute Vesoul, Jacques Brel.
Oh oui, écoutez Marcel Azzola.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Et je te le redis, hey. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai.
j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du thon et on a vu du thon.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Liliane Rovert.
Pour revenir justement au corps considéré à partir de cet ému avant, alors là, c'est gigantesque. C'est-à-dire aussi bien l'hygiène, aussi bien la sécurité, aussi bien l'environnement, etc., tout a changé. Et regardez par exemple, n'oubliez jamais que lorsque je suis né, l'espérance de vie était de 45 ans, vous voyez. Aujourd'hui, elle est de 80 ans, ce qui change absolument la vie humaine. La naissance est choisie par les parents, la mort est repoussée, la douleur est un peu allégée par les antalgiques, etc. Nous avons un nouveau corps.
Michel Serres, au micro de Laure Adler dans L'Heure Bleue, il y a 2 ans, Liliane Rovert, vous avez choisi de nous parler du livre du philosophe récemment disparu, intitulé « C'était mieux avant », publié en 2017 aux éditions Le Pommier. Et vous le citez dans un entretien donné au Temps. J'ai voulu rappeler qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, nous avions Hitler, Staline, Franco Mussolini et Mao Zedong. 45 millions de morts. Il continue ensuite en disant qu'il s'incline évidemment avec empathie et pitié devant les victimes des attentats et des guerres civiles, mais que vraiment on assiste à une baisse tendancielle de la violence. Vous, vous le dites dans La folle vie de Lily, vous êtes né le jour d'arrivée au pouvoir d'Hitler.
Oui.
Vous avez connu les grands événements de l'histoire, vous avez porté l'étoile jaune.
Oui.
Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez de ce livre. De ce qui vous frappe dedans, du fait que en ayant connu tout ça...
Si j'ai acheté le livre, c'est parce que j'aime Michel Serres, j'aime sa personne, j'aime sa personnalité, j'aime lui. Et c'est aussi parce que comme je vois le monde d'un œil très alarmé, très pessimiste, je sais qu'on est dans le remède à la mélancolie ici, mais enfin moi je vois le monde mal barré. Je me suis dit peut-être que c'était mieux avant, je vais écouter Michel Serres qui ne parle pas pour ne rien dire. Voilà. Ça sert à rien de dire que c'était mieux avant. Ça sert à rien du tout. La différence, c'est que avant, quelles que soient les atrocités qui étaient commises, on ne voyait pas la fin de l'humanité. Maintenant, on l'entrevoit. Alors, comme remède à la mélancolie, on va parler de l'échéance et de dépasser le danger. On va essayer de... Je ne sais pas si on va y arriver parce que c'est mal barré, mais je voudrais bien que le monde change et se sauve et que nos enfants voient un monde avec des girafes, avec des lions, avec des papillons, voilà.
Avec des fruits qui ont du goût, c'est ça que vous regrettez dans La folle vie de Lily?
Oui, quand j'étais petite, les fruits avaient un goût incroyable, les tomates c'était délicieux. Maintenant, pour les garder bombées, rouges, éclatantes, elles n'ont aucun goût, elles n'ont que de l'eau, elles ont beaucoup moins de vitamines, et tout ça pour faire durer, c'est tout ça c'est l'argent. Tout ça c'est le profit et le moteur, tout s'en va.
Quel est le progrès que vous appréciez le plus à notre époque, Liliane Rovert?
Écoutez, 2 choses sont apparues récemment qui sont des émergences qui m'ont paru... des émergences, oui, des trouées dans un ciel d'orage. C'est les enfants qui se mobilisent pour le climat. Ça me paraît très très intéressant. Parce que peut-être que eux, en se sauvant, ils nous sauveront. Et qu'ils se sauveront surtout eux. Moi, je suis vieille. J'ai vécu dans un monde qui me convient beaucoup mieux parce que moi je peux pas vivre avec Big Brother, ça ne me convient pas et j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais et l'autre sujet d'espoir, bien que on fasse tout pour l'étouffer dans l'œuf, c'est les gilets jaunes. Je les trouve très intéressants parce que tout d'un coup une revendication qui n'était que pas que dans un sens restrictif, mais qui était alimentaire, qui était une revendication de niveau de pouvoir d'achat, s'est transformée très rapidement, d'une manière spontanée, en revendication politique qui remet le système en question, ce que j'appelle le système, c'est-à-dire le monde qui est basé sur la financiarisation du monde. Quand des gilets jaunes demandent plus de démocratie, ou des référendums d'initiative populaire, ou des possibilités de reprendre leur mandat à des gens à qui on a donné un mandat et qui ne font pas ce qu'ils ont dit. Et tout ça, ce sont des revendications qui me paraissent remettre en cause le système, et je pense que le système a peur des gilets jaunes.
Liliane Vrovert, vous êtes lucide, et donc vous avez une inquiétude sur le siècle, évidemment, mais vous n'êtes jamais désespérée. J'ai l'impression que le désespoir total vous est étranger.
Mais écoutez, le désespoir, qui veut être désespéré totalement?
Mais parfois on ne veut pas, mais on l'est malgré
nous. Oui, mais oui, ben oui et non, parce que la vie est là, parce que moi j'aime rire, parce que je vois bien où on va, mais en même temps, je ne vais pas me rouler par terre et être désespéré d'avance, non.
Michel Serres disait « L'essentiel, c'est de s'amuser ». Et ça pourrait aller avec votre citation consolatoire, Liliane Vrovert, elle est de Socrate. Et c'est le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Est-ce que vous avez un exemple de plaisir sans remords?
Oh, j'en ai plein.
Allez-y.
Là, comme ça, je ne sais pas. Mais
Est-ce que c'est fréquent?
Oui. Le remords, c'est intéressant si vous avez fait une bêtise, ou une saleté, une méchanceté.
Ou un excès dans le plaisir.
Un excès dans le plaisir, ou alors c'est pas un remords, hein, c'est un regret, hein, faut se calmer, je veux dire. Je veux dire, c'est l'excès est un ennemi. Moi, je n'ai pas tellement peur de fréquenter une chose ou une autre. Ce dont je ne veux pas, c'est me marier avec.
Mais ce qui frappe quand on lit votre autobiographie, Liliane Vrovert, c'est que vous avez été entourée pendant longtemps de gens qui avaient des dépendances très fortes à certaines drogues ou à de l'alcool, et vous avez goûté à tout sans jamais avoir d'addiction.
C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas peur. Plaisir sans remords. Ben moi, j'ai aucun remords d'avoir goûté à tout. Voilà un exemple. Mais je ne me suis jamais mariée et installée avec. C'est-à-dire que la chose, il faut que ce soit moi qui l'utilise et pas elle qui m'utilise moi.
Mais c'est risqué.
C'est risqué, oui. J'ai pas tellement eu de courage, j'ai pas tellement eu une volonté de faire. C'est mon caractère. Je vais abuser d'un truc un jour, et le lendemain j'ai mauvaise mine, je m'arrête.
Et cette raison n'est pas donnée à tout le monde. Parfois, on pense qu'on peut goûter quelque chose une fois et puis on se retrouve pris au piège.
Alors, il ne faut pas le faire.
Ouais, ouais.
Il y a des gens qui ne devraient pas, fumer, qui ne devraient pas boire, qui ne devraient rien faire du tout, puisqu'ils n'ont pas le... Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'enzyme glouton.
Vous n'êtes pas avide, Liliane Vrovert?
Non, je ne suis pas avide, même dans aucun domaine, en fait. Donc, c'est pas que dans ce registre-là. J'aime pas l'avidité. J'aime pas le calcul. Je n'aime pas la manipulation. J'aime pas. Je suis assez contente de ce que j'ai. Je trouve que j'ai beaucoup de chance.
Cette liberté qui semble vous caractériser, Liliane Vrovert, est-ce que vous y avez travailler? Je sais que vous avez un tempérament d'affranchi depuis toujours, mais est-ce que vous avez travaillé à vous affranchir de plus en plus? Parce que dans La folle vie de Lily, par exemple, vous racontez une relation assez toxique avec Bibi Vrovert, dont vous ne vous êtes pas émancipée tout de suite.
Non.
Donc ça n'a pas toujours été le cas de...
Non, c'est même le cas où je me suis installée dans une relation toxique. C'est même le cas. Mais comme je l'explique aussi... Je ne regrette rien parce que par Bibi, j'ai eu ma fille Tina et que je l'ai dit dans le livre, je m'en fous de tout le merdier, je garde Tina.
Vous arrivez, Liliane Vrovert, à vous concentrer uniquement sur le positif de chaque chose?
Non, ce n'est pas comme aussi délibéré que vous le dites. Je le fais, mais c'est pas avec une conscience délibérée, avec une volonté, avec une vertu. C'est pas un acte de courage. C'est, je ne sais pas, peut-être que j'ai... Peut-être que de ne pas être goulue, de ne pas être avide, me préserve des excès. Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous dites à vos amis excessifs?
Ben, les amis qui filment comme des pompiers, je dis, ben la cigarette, c'est pas ta copine.
Et qu'est-ce que vous dites aux gens excessifs dans le sentiment du malheur? Quand vous avez des amis dévastés?
Écoutez, parfois ils y sont pour quelque chose. Il ne faut pas enfoncer les gens. Mais si quelqu'un est apte à écouter une information ou une critique, il faut la faire. S'il ne l'est pas,
On continue de fuir les passions tristes juste après un morceau de la playlist Inter, rigolo à prononcer, Alani Chalala.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay, it soothed me. Your words, they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys, all you told me really was a lie. Oh, me, darling, you hurt me.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Liliane Rovert.
Ce que Spinoza présentera comme l'intuition du troisième genre de connaissance, c'est bien une espèce de pensée comme éclair. C'est bien une pensée à vitesse absolue, c'est-à-dire qui va à la fois le plus profond et qui embrasse, qui a une amplitude maximum, et qui procède comme en un éclair.
Deleuze, à propos de Spinoza à l'Université Paris 8 en décembre 1980, le système de pensée qui vous accompagne, Liliane Rovert, c'est l'éthique de Spinoza, texte magistral publié en 1677 après la mort du philosophe, écrit entre 1660 et 1675. C'est le texte qui vous a donné une interprétation du monde et vous l'avez découvert grâce à l'économiste Frédéric Lordon.
Oui. Comme toujours, je rencontre les choses ou les choses me rencontrent. J'ai de la chance. J'ai écouté par hasard Frédéric Lordon, que je trouvais intéressant, et qui parlait d'un bouquin qu'il avait écrit qui s'appelle Désir et servitude, Capital, désir et servitude, enfin je ne sais plus très bien le titre du bouquin. Et il parlait de de faire une, quand même, comment vous dirais-je, de prolonger Marx par Spinoza. C'est-à-dire que il analysait le matérialisme historique, mais il voulait y ajouter les affects. Et donc, ça m'a intéressé. Je suis allée m'acheter un bouquin de Spinoza. J'ai acheté l'éthique. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à le déchiffrer.
Oui, c'est peu accessible. Il y a un vocabulaire très spécifique chez Spinoza.
C'est peu accessible. Donc, j'ai eu la chance d'écouter Deleuze qui explique Spinoza.
Il y a toutes les conférences en ligne pour les auditeurs.
À Nanterre, je crois. C'était à Nanterre.
C'était à Paris 8.
À Paris 8. Bon, il en avait certainement qui avait précédé des leçons, mais moi, j'ai écouté les leçons de 1 à 13, 13 leçons de Spinoza, de 2 heures, 2 heures et demie chacune, et qui m'explique Spinoza. Et c'est une merveille.
C'est une affaire de combinaison, la joie et la tristesse, selon Spinoza. Quand on rencontre un objet ou un être qui se compose avec nous, on persévère dans son être et on éprouve de la joie. Et quand l'objet ou l'être tend à nous décomposer, il nous empêche de persévérer dans notre être et c'est la tristesse. Liliane Rovert, vous, depuis que vous avez lu Spinoza, vous arrivez plus facilement à vous éloigner des passions tristes.
Ah oui. Oui. Enfin, c'est pas parfait. Hein. Je suis pas. Il m'arrive d'avoir des jours de mauvaise humeur, des jours d'irritation inutile. Mais justement, Spinoza, c'est très utile pour les irritations inutiles et pour les passions tristes, pour les peines inutiles. Il y a des peines qu'on ne peut pas s'épargner. Il y a des peines inévitables. Et il y en a beaucoup d'autres dont on s'encombre et dont on peut se débarrasser. Le poids s'allège et puis il parle des affects. On est affecté, tout ce qui nous advient nous affecte. Et nous affecte à chaque fois en joie et en tristesse, ou en joie ou en tristesse. Et si on est en tristesse, on a l'énergie qui diminue. Avec la joie, on a l'énergie qui augmente. Alors on décrète pas, mais c'est un chemin discernable, utile. Enfin, moi, je trouve que Spinoza est une merveille.
Parce qu'il dit qu'en fait, une chose en soi n'est ni positive ni négative. C'est nous qui allons lui donner une valeur.
Oui, moi, ce que j'aime chez Spinoza, c'est qu'il n'est pas dans la morale, il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans le bien, le mal, comme Nietzsche d'ailleurs. Il est dans le bon et le mauvais. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est adéquat? Si vous êtes adéquat, vous êtes automatiquement dans le juste. Et si vous êtes dans le juste, je ne parle pas du point de vue moral, hein, je parle de la justesse.
Par rapport à vous, c'est quelque chose de subjectif?
La justesse, c'est quelque chose de subjectif, et non.
Il y a une justesse absolue?
Il y a un endroit où c'est plus juste qu'ailleurs.
C'est déjà pas mal.
Oui. Il y a un endroit où c'est le bon endroit.
Et vous le ressentez souvent, l'atteinte de cet endroit?
Eh bien, écoutez, je le recherche. Enfin, j'en fais pas une... je sais pas... Vous savez, Spinoza, il est tout sauf mystique. Il est le moins narcissique de tous les philosophes.
Et désintéressé, vous dites
le
aussi.
Le plus désintéressé des hommes. Il est comme Rousseau à ce point de vue. Et il n'aime pas la tristesse, il n'est pas dans la tristesse. Il explique que les tyrans ont besoin de notre tristesse. Étienne de la Boétie, à 20 ans, disait aussi, ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Donc il y a une part de nous qui a des tendances, triste, pessimiste, mais pessimiste inutile, vous comprenez, ce sont des tristesses inutiles. Il y a des tristesses quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, vous n'allez pas éviter de la tristesse. Mais si vous êtes irritable, mal disposé, bougon, pas content, je le vois par exemple, je le vois extrêmement bien quand je joue, je suis actrice. Quand je suis gay, quand je suis pas de mauvaise humeur, quand j'ai pas de tristesse, quand je suis pas irritée, quand je suis pas inquiète, je joue bien. Enfin, je joue bien, ça sort tout seul. Si je suis mal disposée, inquiète, pas tranquille, pas sûre de moi, etc., ça plombe. Donc c'est l'illustration. Moi, je n'ai pas besoin de me préparer pour entrer en scène, j'ai juste besoin d'être contente.
Et donc de Spinoza?
Je fais du Spinoza sans le savoir quand je fais ça.
Merci beaucoup d'être venue dans cette émission, Liliane Rovert.
Est-ce que je peux vous faire un compliment?
Ah ben, je vous en prie, mais je vais rougir.
Eh bien, quand vous mettez des musiques, vous les mettez in extenso, vous leur coupez pas la parole au bout de quelques mesures.
Oui, On essaye. Je rougis. Merci beaucoup, Liliane Rovert. Merci. On peut vous voir dans la série Family Business d'Igor Gottesman, disponible sur Netflix depuis le 28 juin dernier, et lire votre autobiographie La folle vie de Lily, parue en avril dernier chez Robert Laffont. Vous serez dans la quatrième saison de 10% et vous êtes encore en train d'écrire. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes évoqués sont sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a le calme poétique d'un calamar abstrait.
Et un grand merci à vous, Eva Bester. Rendez-vous dimanche prochain dès 10h sur France Inter.